是的丰满。
On a chanté mon rédempteur vit. Mais je dois vous avouer qu'en ce début d'année, j'étais un peu découragée. C'est vrai, j'ai vécu des choses fortes avec Dieu. Il m'a sorti souvent de mauvais pas. Mais en ce début d'année, je me disais, je retombe toujours dans les mêmes pensées négatives. Je dois toujours lutter. Et je me suis dit, mais est-ce que mon rédempteur vit? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de maîtriser tout ça? Est-ce que Dieu ne pourrait pas me donner une fois quelque chose où j'ai plus besoin de lutter? Et puis, j'ai aussi rencontré un jeune qui m'a dit qu'il était allé faire une campagne d'évangélisation au Ghana, qu'il avait vu 1 million de personnes venir écouter la parole de Dieu et qu'il avait été témoin de nombreux miracles. Et je me suis dit, mais pourquoi pas nous? C'est pour ça que je vous propose ce sujet. C'est vrai aussi, dans les évangiles, il y a des miracles. On les lit, on se dit, on a la foi, on croit. Mais si on regarde honnêtement, une tempête, la multiplication des pains, des délivrances, des résurrections, vous avez déjà vu ça, vous? Moi, des délivrances, je n'ai pas vu. Mais des multiplications de pains, des résurrections et des tempêtes apaisées, des gens qui marchent sur l'eau, j'ai jamais vu. Et si on regarde avec notre raison, on dit, mais c'est des choses impossibles. Alors, c'est pour ça que j'ai eu envie de me pencher sur les miracles aujourd'hui. Mais d'abord, on va faire ensemble la définition d'un miracle, parce que je crois qu'il y a plusieurs visions de ce qu'est un miracle. Alors, Michel va passer au milieu de vous, vous levez la main, que vous avez envie de prendre la parole, et vous nous dites, à votre avis, c'est pas un catéchisme, hein, il s'agit pas d'avoir la bonne réponse, il s'agit de nous dire ce que vous pensez, ce que vous avez vécu, ce qui correspond à quelque chose en vous.
Sylvie.
Alors, la vie n'est pas faite que de grands miracles. Enfin, je gardais 4 enfants il y a quelques années, une vingtaine d'années. Le père était au chômage, la maman ne travaillait pas. Et un jour, ils m'ont dit, mais même qu'on a 3 repas par jour, c'est un miracle. Donc tous les repas, tout ce qu'on vit, déjà moi, comme je ne travaille pas, puis que Dieu me soutient énormément. Ben, c'est ça aussi, il y a des petits miracles, et puis c'est... C'est important, quoi. Voilà. On n'a pas besoin de vivre que les résurrections, que les... Enfin,
voilà. Ouais.
Que des grands miracles, hein.
Ouais.
Il y a aussi se rendre compte que les petites choses de la vie ne vont pas de soi.
Oui.
Lorsque Jésus vient dans nos vies, pour moi, un miracle, c'est l'espérance dans la désespérance.
L'espérance dans la désespérance.
Je pense, pour moi, la définition de miracle, c'est quelque chose qui dépasse la logique humaine.
Ah. Quelque chose qui dépasse la logique humaine. Les lois naturelles, ce qu'on connaît, qui ne s'expliquent pas.
Karine?
Pour moi, ce que j'ai vu, c'était la prière, la parole qui change la réalité. Des prières de guérison, de délivrance, de voir des gens qui confessent Jésus-Christ et leurs mots... font qu'ils sont délivrés sans forcément une grande manifestation quoi, mais c'est ce pouvoir de la parole de Dieu et du mot, de la prière qui change la réalité des choses. Voilà.
Merci.
Anne-Marie.
Bah pour moi, simplement, le printemps, pour moi, c'est un miracle chaque année parce que j'ai l'impression que la nature, elle est morte et puis il y a toute la vie qui ressort. Je trouve que c'est juste fabuleux.
Ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre église, il y a un miracle de ce genre. Toutes les années, je fais sortir l'hibiscus pour le faire revivre. Hein. Il fleurit pendant tout l'été. Cette année, je l'ai rentré trop tard. Il a gelé. Je l'ai rentré avec 2 feuilles. Il y en a qui m'ont dit, mais Denise, tu ne crois pas que... J'ai dit, non, ça va revenir. Vous pouvez aller voir, il est plein de fleurs.
Miracle, c'est ma vie. D'où je viens, rien qu'être là et confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est un miracle qui n'a pas de taille.
Ouais, c'est juste.
Le miracle est aussi au catéchisme.
D'avoir des jeunes qui sont là, écoutent et participent.
Ouais, je me sens un peu obligé de prendre la parole pour témoigner ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Et j'aimerais vous dire, les guérisons, ça existe. Et le Seigneur les fait aujourd'hui. À côté de moi, il y a maman. Quand ils étaient jeunes avec papa, ils se sont cassés la figure en scooter. Elle a été assez réparée à l'arrache parce qu'il pensait qu'il passerait pas la nuit. Et puis depuis, papa, il a chopé de l'arthrose dans son poignet. Il avait un os qui était plus court que l'autre et puis il souffrait. Et jusqu'à un jour où, dans une réunion, on priait pour les malades. Et un coup, il a entendu crac dans son poignet. C'était fini.
Ouais.
J'aimerais aussi, confesseur, j'ai pas l'habitude de raconter ces histoires-là qui m'émeuvent, mais c'était ma l'église apostolique. Quand j'étais jeune, si vous regardez le peu de photos qu'il y a de quand j'étais adolescent, je portais des lunettes. Maux de tête, astigmatisme, hypermétrope, myope, on n'a jamais trop su ce que c'était, mais en tous les cas, j'y voyais pas bien clair. Et je peux confesser que le Seigneur Jésus m'a guéri et que le prédicateur qui priait pour les malades s'est arrêté vers moi, il a posé ses pouces sur mes yeux. J'ai pu le sentir changer. Le lendemain, j'ai posé mes lunettes. Voilà, je me rends de la gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait.
Ouais.
Voilà, on a tendance à vite oublier, mais oui, c'est des vrais miracles, oui, ça se passe. C'est vrai qu'en Afrique, on entend parler de choses beaucoup plus spectaculaires, beaucoup plus fantastiques. Peut-être qu'on a quelque chose à apprendre de la foi des Africains. Merci.
Et encore Marie-Thérèse, ou bien pas? Merci Xavier. Précieux.
Moi, j'avais vécu vraiment un miracle. Quand Roger est tombé de 6 mètres de l'arbre, hein, quand il a cueilli des cerises, et il est tombé sur la tête, et donc après il s'est cassé partout. Mais quand il était par terre, à un moment donné, il a arrêté de respirer. Et moi, devant mes enfants, mes petits-enfants, ils étaient là, les Kunz, pas les Kila. J'ai crié à Jésus, mais vraiment, Jésus, s'il te plaît, ne me prends pas, Roger, et je me suis jetée sur lui. Et ça a fait un espèce de râle, et voilà, il a recommencé à respirer. Mais c'est pas fini, parce que en traversant là, ils ont découvert qu'il avait un cancer du rein qui allait éclater, parce qu'on ne savait pas. Et le plus grand miracle, c'est que le cœur de pierre a été changé en cœur de chair et à près de 80 ans, il s'est fait baptiser. Alors c'est un immense miracle et merci Seigneur.
Ah ouais, c'est vrai, on a envie d'applaudir.
Pour moi, le miracle, ça a été dans ma vie quand le Seigneur m'a saisi déjà à moi. Ça, c'était un grand miracle. Et puis après, quand j'ai prié tout le temps pour mon mari, et qu'avant de mourir, il demandait pardon à Dieu. Il criait à Dieu tous les soirs. Il se fermait la porte, il allait au lit et criait à Dieu de le pardonner. Voilà, ça, c'est, pour moi, ça a été quelque chose de
merveilleux. Tu as attendu longtemps.
Gloire à Dieu. Merci.
Ouais.
Je devrais, en tant que tout Bible, je ne devrais pas parler des guérison miraculeuse. Pourtant, j'en ai vécu une sur moi-même. J'étais complètement plié avec des maux de dos depuis plusieurs jours. Et il y a un pasteur, c'était à Pointe-Laval, il y a un pasteur qui a mis les mains sur moi, il a prié pour moi. À l'instant, je me suis levé et de 90 degrés, j'ai fait 180 d'un coup. Ça ne pouvait être autre chose.
Ouais.
Et merci Seigneur.
Ouais. Et dans ton cœur, ça a fait quoi?
Je ne pouvais que constater un miracle.
Ouais.
Vraiment. Ouais. Et louer Dieu, bien sûr.
Puis encore
C'est l'autre Xavier qui a parlé. C'est vrai que dans ma famille, on a eu pas mal de petits miracles entre ma nièce qui avait des pieds beaux juste avant la naissance, puis tout d'un coup, elle est ressortie du ventre de ma sœur, puis qu'elle avait ses petits pieds tout droits. Juste des petits miracles comme ça qui s'est passé. Moi, personnellement, j'en ai eu plusieurs et je vais juste vous en donner un. Par rapport à mon visage, je ne sais pas, vous me voyez normal. Mais en fait, il y a quelques années, 3-4 ans maintenant, en fait, j'avais allumé un feu en brûlant des chenilles processionnaires. Et puis, en fait, j'ai eu un monstre retour de flamme qui m'est arrivé en pleine figure. Ma main, j'avais plus de cils, j'avais plus de sourcils. J'étais presque au troisième degré. Et ma main, c'était une monstre cloque. Bon, bref, je sais pas si les détails. Et juste au moment où je recevais ce retour de feu, j'ai dit stop! J'ai gueulé au Seigneur, stop! Il y avait tout. Il y avait quand même mon habit qui était en feu. C'était assez tragique. J'étais seul en plus. J'ai juste le temps d'aller me mettre de l'eau, tout ce qu'il fallait. En fait, quelques jours plus tard, on voit maintenant, je crois que c'est un miracle, j'aurais pu être gravement brûlé, avoir des déformations, etc. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, aux urgences, il y avait deux personnes qui avaient aussi eu la même chose que moi, mais eux, ils étaient dans le coma, ils ont dû les mettre dans le coma tellement ils étaient brûlés. Et je crois que j'aurais été miraculé. Voilà.
Et puis encore... Ah, je ne sais plus votre nom. Pardon. Ah non, mais...
Rebecca,
mais il y a encore quelqu'un d'autre. Voilà. On prendra le dernier.
Pour moi, qu'est-ce qu'un miracle ? C'est déjà chaque jour de pouvoir se lever, d'être en bonne santé, de voir un rayon de soleil, de voir une fleur s'éclore, de voir un sourire, c'est déjà des miracles.
Ouais. Eduardo, non pas Eduardo. Là, au coin, là. Alberto. Oui, Alberto.
Oui, Alberto.
Excusez-moi, je ne parlais pas, je parlais très mal en français. Mais, il y a beaucoup de miracles que j'ai vu dans ma vie. Un miracle, c'est un cancer de maman, de ma femme. Alléluia. Autre miracle, c'est que mon fils est tombé sur un camion et devant un camion est tombé et je suis allé chercher à mon fils avant j'avais levé la main pour arrêter cette grand camion, et ce camion s'arrêtait tout de suite. Et je suis allé chercher à mon fils sous le camion. Un camion très grand qui venait à grande vélocité. Mais cet camion s'est arrêté comme s'il avait un mur qui l'a dit stop. Pour ça que beaucoup de miracles que j'ai vus dans ma famille, eh bien, beaucoup de choses qui sont passées. Que merci à Dieu. C'est un miracle, premièrement, que Dieu m'a cherché. Merci.
Amen. Si je résume, je vous remercie d'abord pour tous ces témoignages. Ça fait du bien de les entendre, parce que je ne savais pas tout ça. Et si j'essaye de résumer ce que vous avez dit, c'est quand même... une intervention dans notre vie, quelque chose qui se passe dans notre vie où on reconnaît la main de Dieu et on lui dit merci, que ce soit dans le rayon de soleil, que ce soit dans le fait de manger tous les jours, ou d'une guérison de quelque chose qui aurait dû se produire, qui ne s'est pas produit, ou au contraire, qui n'aurait pas dû se produire et qui s'est produit dans un sens positif. Alors, ma deuxième question, il n'y a pas besoin d'y répondre, parce que ceux qui ont déjà vu des miracles, eh ben, on y est. Et puis, bon, je ne sais pas, Xavier, tu as témoigné de miracles, mais il y a aussi ton épaule qui te fait toujours mal. Hein? Il n'y a pas toujours des miracles. Et je sais que beaucoup parmi vous, et même moi, on prie depuis longtemps pour des personnes, pour qu'elles trouvent Dieu ou pour qu'elles aient une guérison psychologique ou physique, et on ne voit rien se passer. Après tous ces miracles que nous avons entendus, il y a une grande espérance dans notre cœur. Et comme on est au début de tout ce que je vais dire, nous allons chanter un chant qui dit « Je désire entendre ta voix ». Je vais essayer de dresser un tableau général des miracles. Là, il y a des gens qui sont exprimés, qui ont vécu des miracles, qui n'ont pas de doute, les miracles, ça existe. Mais on n'est pas tous dans ce cas-là, et il y a des moments où on en doute. Et puis, je vais commencer par dire ce que les miracles ne sont pas, ou les fausses croyances qu'on a au sujet des miracles. Parce qu'on a cette idée, surtout dans les milieux évangéliques, que le miracle, c'est quelque chose de chrétien, que si un miracle se passe, c'est la démonstration que Dieu existe. Quand on est en train de rendre témoignage, c'est la démonstration que ce qu'on dit est vrai. Mais ce n'est pas vrai du tout, parce qu'il y a des miracles dans toutes les religions et dans toutes les cultures. La Bible elle-même en fait état. Par exemple, les magiciens du Pharaon, ils ont fait les mêmes miracles au départ que Moïse. Ou bien Simon, le magicien dans les Actes, ou la servante qui prédisait l'avenir et qui faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres. Quand on a fait Marc l'expérience, j'aurais bien voulu qu'il y ait un miracle qui démontre que ce qu'on était en train de leur présenter, c'était vrai, que ça tombe du ciel, qu'ils disent « oui, je crois ». Ça, ce n'est pas produit. Mais dans la Bible, dans les évangiles non plus, la foi, les miracles ne produisent pas forcément la foi. Un exemple, Jésus a une fois guéri 10 lépreux, il y en a un seul qui est revenu. Et puis les pharisiens, ils n'ont jamais cru. On a l'impression aussi qu'il y a une avalanche de miracles. Dans les évangiles, c'est vrai qu'ils disent qu'il y avait beaucoup de monde qui venait, puis Jésus les guérissait tous. Mais il n'y en a que 15 qui sont rapportés, 15 différents qui sont rapportés dans le détail. Une dizaine dans Matthieu, Marc et Luc, et seulement 3 dans Jean. Donc il semble que le miracle, c'est pas l'essentiel de ce que Jésus a voulu apporter. C'est pas... Quand vous prenez la totalité des chapitres des évangiles, c'est pas la plus grande partie des évangiles. Jésus, il est venu aussi pour autre chose. Puis on a aussi cette idée que si on voit pas la réponse à nos miracles, ou à nos demandes de miracles, c'est parce qu'on n'a pas la foi. C'est pas sûr non plus, parce que sur les 15 miracles de guérison, le mot foi n'est utilisé que 6 fois. 6 autres fois, la foi est peut-être sous-entendue parce que la personne est là, parce qu'il y a demande. Et 2 fois, il n'y a même aucune démarche de la part de qui que ce soit pour demander la guérison. Par exemple, l'aveugle né dans Jean qui est au bord du chemin, l'aveugle n'a rien demandé et personne n'a rien demandé pour lui. Et puis, quand Jésus s'est fait arrêter, il y a quelqu'un qui a coupé l'oreille d'un soldat et Jésus l'a réparé, mais le soldat il n'a rien demandé. Et puis quand on voit toutes ces foules qui accourent pour être guéries, on se demande, mais est-ce qu'elles croyaient en Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur, ou est-ce qu'elles croyaient en Jésus, faiseur de miracles? Je ne sais pas, hein, c'est... voilà. Et puis j'ai aussi vu que Jésus n'a jamais utilisé le miracle pour lui-même. Il ne l'a pas utilisé pour être sûr qu'il était le fils de Dieu, à la tentation il l'a refusé. C'est la parole de Dieu à qui il a donné le plus d'importance. Il a refusé des miracles aux pharisiens, à la foule, à ses frères qui auraient voulu, comme moi, qu'il fasse un miracle éclatant. Il n'a pas donné de preuve de son existence parce que quand il y a preuve, il n'y a plus besoin de foi, il n'y a plus besoin de confiance. Et c'est des attitudes qui engagent et qui sont nécessaires, qui créent un lien. Il n'a jamais utilisé les miracles pour forcer les gens à croire. Il n'a mis aucune condition à la guérison. On ne sait pas ce que les gens sont devenus. Il les a laissés libres. La suite leur appartenait. Puis là, je vais vous choquer, mais je vais vous dire que Jésus n'est pas tout-puissant. Parce que sa toute-puissance s'arrête à notre porte. Il nous respecte beaucoup. Il y a ce verset qui dit « Voici, je me tiens à la porte ». Et puis, on en a un exemple très précis dans l'histoire de Jésus à Nazareth, et c'est Lucie qui va nous le lire, dans Marc 6, les versets 1 à 6.
Marc 6, 1 à 6. Jésus quitte cet endroit, il va à Nazareth, la ville où il a grandi. Ses disciples l'accompagnent. Le jour du sabbat, il se met à enseigner dans la maison de prière. Il y a beaucoup de gens. En l'écoutant, ils sont très étonnés et ils disent « Qui lui a appris tout cela ? Cette sagesse, qui l'a reçue ? Qu'est-ce que c'est ? Et ces miracles qu'il a faits, comment les fait-il ? Pourtant, c'est bien le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs vivent ici chez nous. Cela empêche les gens de Nazareth de croire en Jésus. Alors Jésus leur dit, « Un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville, dans sa famille et dans sa maison. Jésus ne peut faire aucun miracle à Nazareth. Pourtant, il guérit quelques malades en posant les mains sur leur tête. Il s'étonne parce que les gens ne croient pas. »
Parce qu'il n'est pas dit dans la Taube, par exemple, il n'est pas dit, dans sa version, il est dit, il ne put pas faire de miracle parce qu'il ne croyait pas. Dans la Taube, ce n'est pas écrit ainsi. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne pouvait faire là aucun miracle. Pourtant, il guérit quelques malades. On est au début de l'évangile de Marc, mais Jésus a déjà fait 8 miracles. Les foules sont déjà accourues vers lui parce que sa renommée de faiseur de miracles s'est répandue. Il a même manqué être écrasé par la foule. Donc peut-être que son passage dans son village natal était pour lui comme une récréation, une halte. C'est reposant de se retrouver au milieu des gens qu'on connaît. Ça fait du bien. Mais ça s'est pas passé comme ça. Parce que pour les gens de son village, ils le connaissaient trop bien, ils l'avaient vu grandir, ils l'avaient vu petit courir dans les rues avec leurs enfants, ils l'avaient vu grandir, être ado, apprendre un métier, peut-être qu'il avait fait la maison de certains, c'était l'un des leurs. Alors quand Jésus est venu dans le village, ils étaient en train d'évaluer, de vérifier, mais c'est pas possible ce qu'on raconte de lui. En eux, il y avait une barrière parce que ils pensaient que c'était pas possible. Et je me souviens d'une fois où j'avais une vingtaine d'années, j'étais en recherche de quelque chose et j'ai cru que Dieu me disait quelque chose. Je vous dis pas parce que c'est trop personnel, mais c'était quelque chose qui était tellement à l'encontre de ce que moi je pouvais penser, d'ailleurs je crois que je l'ai mal reçu, que c'était impossible que je puisse croire que c'était vrai. C'était tellement à l'encontre, pour moi c'était une hérésie. C'était une faute théologique, une faute de foi, ça n'allait pas avec la vérité de ce que je connaissais. Et c'est une idée que j'ai refusée. Mais elle est restée là. Et j'ai évolué, et 10 ans après seulement, j'ai compris ce que ça voulait dire. Un bout. Et 20 ans après, j'ai compris ce que ça voulait vraiment dire. Donc, c'est pas que j'avais pas voulu comprendre. C'est qu'en moi, il y avait une idée qui rendait la chose impossible. J'avais tellement peur de me tromper, c'était pas... Je ne me suis pas sentie responsable de ça, mais incapable de comprendre, incapable de... Et je crois que c'est ce qui est arrivé à ces gens de Nazareth. Mais Jésus, il a respecté, il n'a pas forcé ma porte. Il m'a laissé évoluer, il a donné ce qu'il fallait, et à un moment, j'ai compris. On va chanter un chant. Je veux vous bénir tous, hein. Dans nos impossibilités, dans nos difficultés à croire, dans nos difficultés à comprendre, Jésus veut nous bénir tous. Maintenant, ce que les miracles nous disent, l'essentiel du ministère de Jésus. Pour préparer ce culte, j'avais une liste qui était préparée par la OT où il y avait tous les miracles. Bon, je me maintiendrai au miracle de guérison parce que le champ autrement est trop grand, donc je me suis concentrée sur les miracles de guérison. Donc c'était pour moi plus facile de visualiser, de les passer en revue dans ma mémoire. Et j'ai vu que Jésus, chaque fois qu'il y a miracle, porte une attention très particulière à la personne. Pas parce qu'elle est malade, mais parce que c'est une personne. Même quand il s'adresse aux pharisiens pour démontrer qu'on peut guérir le jour du sabbat ou qu'il peut pardonner les péchés, la personne est au centre pour lui. J'ai vu aussi qu'aucun miracle n'est sec. Ce n'est pas seulement une guérison. Il y a toujours quelque chose qui se passe entre Jésus et la personne. Jésus offre plus qu'un miracle. Il offre un contact. Et pour peu que la personne reçoive ce contact, elle est reliée à Dieu, à Jésus-Christ. Et moi, il m'a semblé que c'était ça le plus important. C'était ça l'irruption de la vie dans ces personnes, plus que la guérison même. C'était cette relation qui pouvait s'établir si la personne était d'accord. Puis j'ai aussi trouvé qu'il y avait un message différent dans chaque miracle. Aucun ne dit tout. Et en les regardant tous, c'est comme un kaléidoscope foisonnant de toutes les facettes de qui est Jésus et de ce qu'il est venu apporter au monde. Les disciples ont vu beaucoup, beaucoup de miracles et ils n'ont rien compris. Parce qu'à la fin, quand Jésus est mort, ils ont eu l'impression d'avoir tout perdu. Quand Jésus est ressuscité, ils ont repassé dans leur mémoire tout ce qu'ils avaient vu. Ils l'ont remis en ordre. Ils ont réfléchi, ils ont trouvé un sens. Et là, ils ont vu que Jésus était fils de Dieu, qu'il était venu les sauver et qu'il annonçait réellement le royaume de Dieu. Et je pense que pour nous aussi, dans notre vie, tout ce qu'on vit, les petites et les grandes choses qu'on vit dans notre vie, il nous faut du temps pour arriver à trouver le sens. Ça vaut la peine de chercher. Et nous, les chrétiens de l'an 2000, on est toujours en train de chercher ce que Jésus est venu faire, qui il est. J'aimerais vous donner deux exemples de ce que ces miracles sont en plus. Alors, le premier exemple, c'est dans l'histoire du paralytique qui était porté par ses quatre amis. Et Lucie va nous lire un petit bout.
Alors, c'est dans Luc 5, 20 à 25. Oh, pardon. Quand Jésus voit leur foi, il dit aux malades, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les maîtres de la loi et les pharisiens se mettent à penser, « Qui est cet homme ? Il insulte Dieu. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. » Mais Jésus connaît la pensée et il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces pensées-là ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire, « Lève-toi et marche. » Eh bien, vous devez savoir ceci. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, « Lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme s'élève devant tout le monde. Il prend la natte sur laquelle il était couché. Il rentre chez lui et en disant, « Gloire à Dieu. »
Donc, quatre hommes amènent à Jésus un homme qui ne peut pas marcher. La foule est compacte, il n'y a que des dos, on ne leur fait pas de place. Alors, ils passent par le toit, vous connaissez l'histoire. Ces hommes auraient bien voulu que Jésus guérisse la personne qu'ils portaient. Mais Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Ce n'est pas la réponse à leur prière, ce n'est pas la réponse qu'ils attendaient. Oui, c'est qu'il y avait un autre problème chez cet homme, plus profond, la culpabilité. Quand on se sent coupable, on se sent aussi condamné. Et parfois, on se sent condamné d'une condamnation qui peut aller jusqu'à la croyance qu'on n'a pas le droit de vivre. En quelque sorte, condamné à vivre comme si on n'existait pas, à vivre comme des ombres, à ne pas prendre trop de place, à ne pas se faire remarquer. Alors l'homme qui ne peut pas marcher entend « Tes péchés te sont pardonnés ». Mais tout aussitôt, il y a des voix qui s'élèvent, des voix de gens qui savent, des gens qui disent ce qu'il faut croire et ne pas croire, des personnes influentes. Et c'est les voix de ces personnes annulent la parole de Jésus. Alors quand Jésus dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés », il se tourne vers la personne et il dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » L'homme qui ne pouvait pas se tenir debout, qui ne pouvait pas marcher, il entend là une parole qui sonne plus fort et plus haut que les paroles de ceux qui savent, de ceux qui condamnent. Et il choisit de croire à cette parole et il se lève. Il se tient debout devant eux tous, et eux qui ne lui avaient pas fait de place s'ouvrent pour le laisser passer. Je crois qu'il y a effectivement plus que le miracle physique. Et nous chantons jour de joie, jour de victoire.
Marc 10, 46 à 52. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin, c'est un mendiant. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent, « Tais-toi !» Mais l'aveugle crie encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête et dit, appelez-le. Les gens appellent l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jette son menton et se lève d'un bond et va vers Jésus. Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'aveugle lui dit, maître, fais que je voie comme avant. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'aveugle voit comme avant et se met à suivre Jésus sur le chemin.
Dans ce reste, c'est le dernier miracle de l'évangile de Marc. Après vient l'entrée à Jérusalem et toute la passion du Christ et sa résurrection. Dans ce récit, on a d'un côté Bartimée, un aveugle, assis au bord du chemin, pas dans le coup. Il est dans la nuit, enfermé dans sa nuit. Il est du côté des pécheurs, puisqu'il a perdu la vue. Il est du côté des pécheurs, des rejetés, des indignes. De l'autre, les disciples et une assez grande foule, debout, en route avec Jésus. Ils sont dans le coup, du bon côté, de ceux qui vont bien, de ceux qui ont fait les bons choix. Au début de l'histoire, l'aveugle est quelqu'un, c'est Bartimée, fils de Timée. Assis au bord du chemin en train de mendier, il est à sa place, c'est sa condition. Quand Jésus passe, Bartimée se met à crier. Ouh, il est en train de quitter sa place. Alors beaucoup veulent le faire taire, le rabrouent, et voudraient l'obliger à rester à sa place. Mais Bartimée crie plus fort. Et Jésus s'arrête. Appelez-le. Pour la foule, tout bascule. Quoi? Comment? Il nous demande de l'appeler, lui? C'est pas visible dans la version qu'a lue Lucie, mais dans la top de nouveau. Là, il y a le vocabulaire qui change. Parce qu'on ne parle plus de la foule, on ne parle plus des gens, on dit « on ». Je crois que je vais vous le lire parce que c'est assez frappant. Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On appelle l'aveugle, on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Ce n'est plus une assez grande foule ou beaucoup, ce qui suggère un ensemble d'individus, il y a des personnes là-dedans, c'est on. On l'appelle, on lui dit. Ce n'est plus Bartimée, c'est l'aveugle. Comme si la foule, dérangée dans sa bonne conscience, dans ce qu'elle avait toujours cru et pensé être juste, se mettait à patauger, perdait ses repères, ne savait plus où elle en était. Ne savait plus où il fallait ranger Bartimée. On, c'est plus une personne. Et puis ce on dit à Bartimée, courage, il t'appelle. Ils lui disent, courage! Qui c'est qui a eu plus de courage? Il a fallu du courage pour crier. Quelle condescendance, vous êtes d'accord avec moi? Il me semble que c'est la condescendance des gens qui essayent de reprendre pied, de se retrouver au bon endroit. Et à partir de là, il n'y a plus que Jésus et Bartimée. Si eux s'effacent, lui se met à exister. D'assis, immobile, il devient vivant. Les verbes utilisés sont très expressifs. Rejetant son manteau, il se leva d'un bond. Rejetant son manteau, mais pourquoi a-t-il rejeté son manteau? Dans ce geste, n'est-ce pas tous les jugements, toutes les idées qui ont pesé sur lui qu'il rejette? L'opinion d'autrui, la pensée de son indignité, la fatalité? Du courage, il en a fallu. Pour faire ce qui ne se fait pas, crier. Pour faire ce qui lui était interdit, exister, faire voir qu'il était là, qu'il était quelqu'un. Il lui a fallu batailler, ne pas se décourager, crier encore plus fort. Parce qu'on voulait le faire taire, parce qu'on n'était pas d'accord avec lui, parce qu'on était contre lui. Ce n'est pas Jésus qui s'est approché de lui. Dans d'autres miracles, c'est Jésus qui s'approche des gens. Ce n'est pas Jésus qui s'est approché de lui, c'est lui qui a crié. Et puis c'est lui qui s'est levé, sans l'aide de personne, avant d'avoir eu aucun contact avec Jésus. Et un dialogue s'est engagé. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Autrement dit, « Quel est ton désir ?» Il ne s'agit pas d'étouffer son désir pour le remplacer par celui de Jésus. Jésus s'intéresse à mon désir. Là encore, Bartimée va vite. Il ne dit pas « J'aimerais que je recouvre ma vue, la vue. » Et Jésus l'approuve. « Va, ta foi t'a sauvé. » Ça veut dire « Tu as bien fait de crier. » Et Jésus donne suite, hein, il recouvre la vue. Comme signe qu'il a bien fait, Bartimée reçoit la vue retrouvée. Et il suivait Jésus sur le chemin. À votre avis, quand le miracle a-t-il eu lieu? Au moment où Bartimée a su que Jésus passait et qu'il a crié? Quand Jésus s'est arrêté et a dit « Appelez-le » Quand il s'est levé? Quand il a retrouvé la vue? Je ne sais pas. Quand Bartimée a crié, je pense que c'était un cri qui venait du très fond de lui qu'il a entendu. Un espoir, un appel formidable vers la vie. Il a entendu qu'il y avait quelque chose qui s'animait en lui. Il a entendu, il a obéi. Il a crié, il a osé faire ce qu'on n'oserait pas faire. Alors je vous propose, vous aussi, d'écouter quand il y a ces révoltes, parce qu'on est bien reçu par Jésus. Est-ce que Jésus a moins aimé ceux qui rabrouaient Bartimée? On ne les voit plus. Hein. Je pense que c'est eux qui se sont retirés parce qu'ils étaient mal à l'aise. Eux aussi, ils étaient enfermés dans une nuit, mais ils ne le savaient pas. Jésus n'a pas eu envers eux de discours moralisateur. En leur demandant d'appeler Bartimée, c'est pas Jésus qui est allé vers lui, c'est eux qui ont été chercher Bartimée. C'est du dedans d'eux-mêmes que le massage est passé. Jésus leur a ainsi donné l'occasion de retrouver la vue. Ont-ils changé? On ne le sait pas. Il leur a certainement fallu du temps pour comprendre. Une remise en question n'est pas une condamnation de notre être, c'est un appel à vivre. Notre Dieu est un Dieu de vie qui nous appelle à vivre, à exprimer qui nous sommes. Alors, osons. Voilà les messages que j'ai trouvés dans ces deux miracles, et il y en a encore beaucoup d'autres dans tous. Nous chantons « Pousse un cri de joie ».
Fidèle et bon, c'est lui qui me produit.
Qui m'a